Moi, je suis un sociologue de l'action publique et des politiques publiques. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la façon dont on conçoit, met en œuvre, évalue des politiques éducatives, des réformes. Et le propre de cette approche est justement d'essayer de comprendre l'interdépendance entre tous les acteurs qui contribuent à produire ces réformes. L'idée, c'est qu'on a tous des métiers et des domaines de spécialité différents, et que ça suppose d'acquérir un vrai savoir-faire professionnel. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, faire de la préconisation de politique publique, par exemple, c'est quelque chose pour moi qui repose sur de véritables compétences spécifiques qui visent, par exemple, à construire des scénarios, à les expérimenter, à les tester, et donc à jouer un rôle de traduction entre ce que peut dire un chercheur dans une enquête spécifique et la façon dont on peut utiliser ses conclusions de recherche dans des domaines plus larges que sont ceux de la décision politique. Et là, c'est une étape, celle de la préconisation. En amont, on a aussi besoin, par exemple, de personnes qui vont jouer des rôles de passeurs, de traducteurs, entre ce que produisent les chercheurs et ce qui peut être dit et utilisé par les acteurs professionnels et par les acteurs politiques. Cette relation entre savoir de recherche et décision politique, finalement, il faut l'institutionnaliser. Il y a plusieurs étapes, plusieurs acteurs, plusieurs espaces où on peut en parler, qui sont différents et qui supposent des compétences différentes. Il n'y a pas de lien immédiat et facile entre savoir de recherche et décision politique. En tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est bien d'étudier comment, à chaque étape de ce processus, il y a des acteurs qui se mobilisent avec des visions différentes, et elle n'est pas de prendre position sur la légitimité ou de ses décisions ou de ses priorités et de dire ce que le futur devrait être. L'idée, c'est plutôt de l'analyser. Je pense qu'il y a d'abord l'acquisition de certaines méthodologies, la capacité aussi à produire des savoirs synthétiques, puisque, vous le savez, j'imagine, au Centre Alain Savary, les chercheurs se spécialisent, on leur demande de se spécialiser dans la maîtrise de certaines méthodes, dans certains objets, dans certaines théories, mais le politique, lui, doit conjuguer. Il doit tenir compte de l'ensemble de ses savoirs, et puis il doit proposer des programmes d'action publique qui s'adressent à un très grand nombre. Et donc, pour conjuguer, qui conjugue et comment on conjugue, ça demande aussi des compétences de synthèse, des connaissances de champ de la recherche plus large que peut parfois avoir le chercheur lui-même de ce champ, qui a une position très particulière et très spécialisée. Donc vous voyez, de l'acquisition de méthodes, des connaissances synthétiques, et puis des compétences de synthèse, et puis ensuite des capacités à traduire aussi les conclusions de la recherche, sans les travestir, mais en tout cas les rendre plus opératoires. Je ne crois pas qu'il suffit de, par exemple, déduire mécaniquement d'une recherche des préconisations, ou qu'on va produire un rapport d'évaluation et finalement on va terminer la phase de diagnostic par des recommandations et des préconisations pour qu'on ait là affaire à une activité de préconisation professionnelle. Voilà. Il y a des personnes qui tentent de le faire dans le système actuel, mais je pense qu'elles sont peu nombreuses. Je vois des tentatives du côté, par exemple, de France Stratégie, mais uniquement et prioritairement pour le Premier ministre. Il y a fort à parier, même s'il n'y a encore aucune enquête empirique sérieuse à ce sujet, que les cabinets ministériels jouent ce rôle, mais on parle à chaque fois d'une poignée de personnes qui ont d'autres fonctions et qui sont prises dans des temporalités politiques d'urgence. Alors, c'est vrai que cette dimension temporelle est importante. Je l'avais retrouvée aussi dans un travail antérieur sur les évaluations du primaire promu à l'époque par Xavier Darcos, où on avait vraiment pu observer qu'on avait là, on faisait de l'urgence une stratégie de gouvernement. On voulait aller plus vite que la réaction des acteurs, plus vite que le débat public sur ces évaluations, pour contribuer à implanter, à institutionnaliser ces nouveaux outils d'évaluation. Et peu importe qu'on critique leur méthodologie après coup, la critique de la méthodologie contribue à faire exister l'outil. Et donc, on avait là une stratégie qui misait sur l'urgence. Donc, c'est une enquête qui a consisté à étudier la façon dont on débattait de l'absentéisme scolaire au Parlement, dans les médias, entre chercheurs et entre acteurs institutionnels, j'entends le ministère, les syndicats, les associations de parents, etc. Et on observe en effet une forme de découplage entre un débat politico-médiatique qui se structure très vite autour de la controverse sur la suspension-suppression des allocations familiales, à partir du rapport Carle de juillet 2002, et jusqu'à le refus par la gauche de revenir sur la loi Cartron qui a supprimé la loi Ciotti en 2012, d'un côté, et de l'autre, finalement, des politiques publiques de lutte contre l'absentéisme qui concernent les professionnels, qui concernent différents acteurs au sein de l'éducation et qui, elles, présentent des constantes dont on parle assez peu. Je pense par exemple à la multiplication d'initiatives locales qui permettent de faire réduire ponctuellement l'absentéisme. Et puis, je pense aussi à tous les enjeux du suivi, du dénombrement de l'absentéisme. Bon, là, il y a un découplage important entre la lutte politique et la façon dont on met en œuvre la politique éducative. Cette controverse sur les allocations familiales, elle est très visible. Par contre, je ne sais pas, le travail des CPE, par exemple, le travail d'un service de vie scolaire, d'éventuelles initiatives prises par les rectorats, est beaucoup moins visible. Même un dispositif, finalement, comme la mallette des parents, n'a pas donné lieu à une très grande couverture médiatique, alors qu'il se généralise. Quelle que soit la couleur politique, on a des acteurs qui sont pris dans des nœuds de contraintes, dans des réseaux d'interdépendance, dans des systèmes d'action, qui font que, bien sûr, ils ont leur sensibilité, bien sûr, ils ont leur couleur politique et une légitimité donnée par des échéances électorales, par exemple, mais en même temps, il y a des contraintes systémiques qui font qu'ils sont tenus de faire certaines choses. Alors, d'abord, je tiens à dire que j'ai beaucoup réfléchi avant de l'utiliser, parce que c'est un mot compliqué, qui peut vous brûler les mains facilement, il n'est pas exempt de critiques. J'ai bien conscience, par exemple, de tous ceux qui écrivent, et à raison, je pense, que parfois, quand on taxe certains acteurs de populisme, c'est parce qu'on appartient à une élite sociale qui ne comprend plus les aspirations véritables de la population ou du peuple réel. Je peux comprendre ça. Donc j'ai longtemps hésité. C'est un mot valise, un mot compliqué. Ce qui m'a amené à le faire, c'est... Je vais partir d'un exemple très concret. On est donc en matière de lutte contre l'absentéisme scolaire. La droite gouvernementale, en juillet 2002, dans le rapport Carle, puis dans le premier projet de loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy, propose donc de supprimer les allocations familiales versées aux parents d'enfants absentéistes. Ça suscite la polémique, la controverse, durablement. Ça oppose fortement les acteurs politiques. La plupart des acteurs institutionnels s'indignent de cette proposition. Donc j'entends par là des syndicats d'enseignants, des associations de parents d'élèves, des acteurs du secteur des affaires familiales, etc. Et comment expliquer que, spécifiquement entre 2002 et 2004, on polémique vivement, on s'indigne, on débat âprement de la proposition d'une prétendue nouvelle mesure et de sa mise en œuvre, alors que celle-ci existe déjà. Parce qu'il faut savoir que la possibilité de supprimer les allocations familiales existe depuis le milieu des années 60, a existé jusqu'en 2004, puis ça sera réintroduit ensuite avec la loi Ciotti, puis supprimé de nouveau aujourd'hui. Mais en tout cas, pendant ces deux années-là, on débat, on polémique. Ça prend une bonne partie des articles de presse, ça structure fortement le débat parlementaire. Or, ça existe déjà. C'est une mesure qui, à l'époque, concerne, l'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliers de signalements, à peu près 6000 signalements d'après les données de la CAF au tout début des années 2000, et qui débouche rarement sur des sanctions effectives. Et puis, c'est une mesure qui n'a jamais été véritablement évaluée. Alors, voilà, comment expliquer cela? Alors qu'on a des acteurs qui, à plusieurs reprises, des corps intermédiaires qui s'indignent, qui prennent des positions de principe contraires, alors qu'on a énormément d'initiatives dont on ne parle pas, alors qu'on a des travaux de recherche qui montrent que l'absentéisme, c'est un processus plus compliqué. Comment caractériser politiquement cette situation-là? C'est finalement par la notion de populisme que c'est dans la notion de populisme, finalement, que j'ai trouvé le moindre mal conceptuel, si vous voulez, la notion la plus proche de permettant de rendre compte de cela. J'entends le populisme éducatif non pas uniquement comme un comportement politique ou une stratégie des responsables politiques. Pour moi, le populisme éducatif désigne une situation d'action publique d'ensemble. Donc ça nous concerne tous. Le populisme éducatif, ce n'est pas que l'affaire des responsables politiques et de la lutte politique. Ça concerne tous les acteurs du champ. Et ça désigne une situation où des gouvernants, oui, vont proposer un programme d'action publique qui flatte les attentes perçues de la population, en l'espèce dans le cas de l'absentéisme, par exemple saisi à travers des sondages d'opinion qui montrent que la majorité des Français sont favorables à ce type de mesures, sans tenir compte des propositions, des connaissances, des recommandations produites dans le cours de l'action publique par des corps intermédiaires, partis, syndicats, etc., et par des producteurs de connaissances que sont des chercheurs, des experts, des évaluateurs. Donc c'est une situation d'ensemble, le populisme éducatif. Et ce populisme, il est éducatif non pas seulement parce qu'il a lieu dans le secteur de l'éducation, il est éducatif aussi parce qu'il véhicule une vision simplifiée du processus d'éducation. Dans le cas de l'absentéisme, eh ben, on a des problèmes d'absentéisme avec des élèves qui sont de futurs auteurs de violence. Ben, il suffit que l'éducation soit plus stricte. Il suffit de responsabiliser les parents. Et s'ils ne veulent pas se responsabiliser, ben, on va les sanctionner. Et donc il suffirait finalement que l'éducation de ces parents, parfois taxés de laxistes, soit plus dure pour que le problème de l'éducation de leurs enfants soit résolu. Tout éducateur sait que la position de fermeté n'est qu'une stratégie possible dans un processus d'éducation qui est plus complexe. Chacun est acteur de cette configuration, de ce réseau d'interdépendance. Si, par exemple, cette stratégie de radicalisation politique de la part de la droite gouvernementale, à ce moment-là, émerge, d'une part, et dure dans le débat pendant plusieurs années, et qui risque de réapparaître, hein, d'ailleurs. Peut-être, à l'avenir, on va de nouveau proposer de suspendre, supprimer les allocations familiales. Si ça, ça émerge et ça dure, c'est parce que ça se fait dans un contexte où les interdépendances entre tous les acteurs permettent cette émergence et cette durabilité. Je vous prends un exemple. Les travaux que j'ai pu mener sur la médiatisation des problèmes éducatifs et sur les journalistes en éducation montrent que l'une des tendances, notamment dans les rédactions généralistes, est souvent de donner la priorité à l'actualité gouvernementale. Quand on donne la priorité à l'actualité gouvernementale dans le suivi des politiques éducatives, ça contribue à politiser le débat. C'est d'autant plus le cas que le journalisme spécialisé en éducation connaît certaines difficultés. La spécialité éducation n'est pas au sommet de la hiérarchie dans les rédactions. Par ailleurs, on a une génération de journalistes spécialisés qui commencent à quitter le milieu. Et puis, ces journalistes-là peuvent aussi trouver des difficultés simplement à avoir des interlocuteurs dans leur colonne pour contrebalancer ce qui est annoncé par le gouvernement. Bon, je pourrais dérouler la chaîne comme ça longtemps, mais c'est bien le fait qu'il y ait cette stratégie politique dans un contexte où les médias vont donner de l'importance à ces discours politiques, où le journalisme en éducation spécialisée peine à proposer de contre-arguments, notamment parce que les chercheurs ne sont pas enclins à beaucoup intervenir dans le débat public sur le sujet. Voilà quelques exemples du fonctionnement de cette configuration d'ensemble qui fait que le débat se politise, et à force de se politiser, on en arrive à des discours populistes. Oui, a priori en tout cas, tel que le populisme éducatif a été défini, il n'y a pas de raison qu'on ne le retrouve qu'à droite de l'échiquier politique. Mais je n'ai pas encore mené d'enquête empirique sur des exemples de politique éducative portées par d'autres types de gouvernements. Spontanément, si je devais faire une enquête empirique demain pour essayer d'élargir le champ, je travaillerais peut-être sur les rythmes scolaires. Je pense que sur les rythmes scolaires, on peut trouver aussi des exemples de ce type. Mais encore une fois, à partir du moment où on définit le populisme comme une situation d'action publique d'ensemble, il n'y a pas forcément de raison qu'il ne soit que de droite. Et justement, il y a des débats intellectuels sur le populisme de droite, est-ce qu'il y a un populisme de gauche, etc. Je trouve ces débats très importants, mais mon approche consiste à dire, si on en reste à ça, si on veut à tout prix savoir si c'est de droite ou de gauche, on peut passer à côté de situations populistes qui ne sont pas forcément liées à des forces politiques spécifiques, mais que les professionnels et les acteurs ressentent bien, et qui peuvent concerner plusieurs sujets. Oui, c'est tout l'intérêt, je pense, d'une approche en termes d'action publique. Et c'est ce qui m'a poussé à utiliser ce mot de populisme éducatif, pour faire passer le message que finalement, à notre échelle, on contribue tous à cette action publique, et donc s'il y a du populisme éducatif, on peut tous contribuer, même indirectement, à son existence. Du côté de la recherche, par exemple, on a beaucoup de travaux sur la complexité du processus d'absentéisme, les profils des absentéistes, etc., qui ne percent pas dans le débat public, notamment parce que souvent, les chercheurs privilégient des canaux de diffusion de leurs travaux proprement académiques. Bon. Du côté des experts et des évaluateurs, je prends par exemple le cas des inspecteurs généraux ou des membres de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, qui sont les deux évaluateurs officiels de l'éducation nationale au niveau national. Bon, ils ne sont pas libres d'intervenir comme ils le souhaitent dans le débat public. Un inspecteur général qui veut accorder une interview à un grand média, il doit obtenir l'autorisation du cabinet ministériel. Or, ce sont ces acteurs-là qui concentrent une expertise très forte sur les politiques publiques dans le contexte français. Donc il y a une déperdition d'informations très importante entre ce que ces experts savent et peuvent faire remonter auprès des décideurs dans des contextes politiques variés et ce qui est effectivement dit dans le débat public. Enfin, concernant les professionnels, l'exemple de l'absentéisme est intéressant. Qui sont les acteurs en première ligne de la lutte contre l'absentéisme? Notamment les personnels de vie scolaire et notamment les CPE. Comment se structure le... Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir professionnel des CPE? Est-ce qu'on entend les CPE comme acteurs collectifs au niveau national? Dans mes corpus, clairement, non. L'Association nationale des CPE, je la retrouve deux ou trois fois dans mes corpus de documents. La section CPE du SNES organise un événement sur le sujet, et puis une manifestation rue de Grenelle. Mais enfin, on n'a pas une parole professionnelle forte des CPE et des personnels de vie scolaire au sujet de l'absentéisme dans le débat public. Bah, bien évidemment, ça laisse la porte ouverte. Quand on conjugue ces trois éléments, ça laisse la porte ouverte à des discours plus politiques, plus simplistes, moins étayés par une connaissance du système scolaire. Bon, on a des corps d'inspecteurs très différents et les situations de travail sont très différentes. Mais ce qui m'intéresse, et on le sait en théorie des organisations, c'est que dans toute organisation complexe, les cadres intermédiaires, ils doivent absorber les contradictions inhérente à cette grande organisation. Et donc aujourd'hui, les inspecteurs territoriaux, ils sont destinataires d'un très grand nombre de mots d'ordre, de missions. Ils doivent inspecter, contrôler, expertiser, conseiller, animer, et depuis décembre 2015, accompagner. Bref, ils doivent faire beaucoup de choses qui les écartent d'ailleurs de ce qu'ils veulent faire au départ quand ils entrent dans la fonction, c'est-à-dire beaucoup plus travailler à la transformation et à l'évolution des pratiques enseignantes. Et qui les soumet à des arbitrages en termes de politique rectorale ou de politique gouvernementale importants qui font que dans une conjoncture spécifique, on va leur demander de faire de l'inspection individuelle, puis après on va leur demander de passer à de l'évaluation collective d'établissement. Parfois, dans certaines académies, ça peut se faire d'une année sur l'autre. Et donc il y a une parcellisation de leurs tâches, un émiettement de leur travail, qui est symptomatique des hésitations actuelles de la réforme du système scolaire. On retrouve cette tension entre, on va dire, des modes de régulation du système assez classiques, bureaucratiques, hiérarchiques. Je rappelle quand même que je me suis amusé à faire le calcul. Entre 1997 et 2016, le ministère de l'Éducation nationale publie en moyenne 225 circulaires par an. Donc il y a bien toujours ce gouvernement, cette régulation hiérarchique de l'école qui fait que les inspecteurs sont rentrés dans la hiérarchie rectorale, ils sont encore plus avec la réforme de la gouvernance académique de 2012. Donc ils sont au service de leur recteur, ils doivent appliquer la politique rectorale. Et d'un autre côté, la volonté de développer une logique de projet, d'évaluation, de contrat, de partenariat, de conseil, d'animation, qui fait qu'on leur demande d'endosser plusieurs rôles, et donc pour eux, ça suppose des arbitrages professionnels qui ne sont pas toujours évidents. Est-ce que je dois renoncer à tel déplacement en établissement auquel je tiens pour assister à telle réunion? Est-ce que je dois me lancer dans une forme de contrôle à distance et numériser de ce qui se passe dans les établissements scolaires, quand on est par exemple IUN de circonscription? Ça donne lieu à des tensions, et ces tensions, elles sont en effet le reflet de ces hésitations en matière de régulation et de gouvernance de l'école. Oui, je pense que cette sédimentation des tâches des inspecteurs territoriaux ne favorise pas toujours, sans jeter la pierre à qui que ce soit, la capitalisation d'expériences, de compétences sur ce que font les acteurs locaux. qui sont en demande. Moi, je ne crois pas à des acteurs en établissement scolaire qui ne voudraient plus d'inspecteurs, qui ne voudraient plus d'experts, qui ne voudraient plus d'accompagnateurs, au contraire. Donc je pense en effet que là, il y a un nœud à trouver. Bon, sans être spécialement de gauche, il y a des problèmes de moyens aussi. Enfin, il y a quand même un problème de sous-effectif de ce type de cadre intermédiaire qui illustre à sa manière les créations de postes d'IPR ces dernières années. Donc oui, je pense qu'il y a un travail de coordination à effectuer, mais il n'est pas simple. Parce qu'il suppose de clarifier les rôles, il suppose aussi, je pense, de renoncer à certaines choses. Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas retirer, on ne sait pas soustraire. On ajoute, on accumule des nouvelles missions, des nouvelles tâches, mais soustraire, c'est plus difficile. Alors, de plusieurs manières, comme chercheur, ça m'intéresserait de l'analyser. Je ne l'ai pas encore fait. Elle ne me surprend pas, puisqu'on cherche tous des solutions, et pour se projeter dans des solutions, on a besoin de nommer des problèmes et des solutions. Mais elle ne me paraît pas inutile si, tout simplement, elle donne lieu à des pratiques effectives. Donc là, par exemple, à la rentrée prochaine, je vais travailler avec un établissement scolaire dans le cadre du dispositif LEA de l'IFE, qui veut évaluer les dispositifs que cet établissement a mis en place depuis plusieurs années pour entrer dans une logique d'organisation apprenante. Ben, on va essayer de faire ça en bonne intelligence, et si ça doit s'appeler organisation apprenante, mais si ça permet aux acteurs de mieux travailler ensemble, d'apprendre de leurs pratiques, de progresser, pourquoi pas, mais ça pourrait s'appeler autrement.